Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Par l'article 1er de la Constitution de 1958, celle de la 5e République, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Fermez les guillemets. Ainsi, et au-delà de la loi de 1905, le principe de laïcité fait partie des droits et libertés que la Constitution garantit, et d'une certaine manière, il est intimement lié à ce qu'est la République. Mais au-delà de ce consensus, il reste de profonds désaccords quant à la signification du terme. Et c'est bien à propos de ces éléments de débat que nous souhaitons organiser les échanges avec nos deux invités. Car la laïcité compte parmi ce que Théodore Zelding, l'historien anglais, appelait les passions françaises. Elle divise, elle crée des fractions dans l'espace politique et médiatique et au-delà au sein de la société, en particulier entre celles et ceux qui souhaitent une simple neutralité de l'État à l'égard du religieux, et celles et ceux qui prônent le contrôle des cultes, allant jusqu'à expurger l'espace public de toute manifestation visible du religieux. Nous reviendrons notamment sur cette notion de neutralité qui semble s'imposer comme le sens donné à ce qu'est la laïcité aujourd'hui. Et évidemment, l'école est traversée par ces débats et même souvent placée en première ligne sur ces questions. En effet, avec et depuis l'affaire Guy du Foulard de Creil en 1989, la laïcité a ressurgi dans l'espace scolaire, provoquant une recomposition du camp laïque, comme on dit. Nous voyons alors deux courants ou approches éducatives s'affronter, c'est un peu les mêmes types de fractures que j'indiquais pour la société en général, soit appliquer strictement la loi au risque d'exclure toute une série et toute une catégorie d'élèves, ou bien accepter les élèves, quelles que soient leurs croyances et pratiques religieuses, au nom de la liberté d'expression ou de croyance. Et la loi de 2004, donc de mars 2004, dont on fête les 20 ans cette année, devait apporter une réponse sans doute incomplète et insatisfaisante, mais enfin une réponse tout de même, en interdisant aux élèves le port de signes ou tenues qui manifestent ostensiblement, c'est les mots de la loi, une appartenance religieuse. Et malgré cette loi, force est de constater que les acteurs restent face à des situations complexes, en tout cas à gérer des situations complexes, notamment, et c'est là où c'est peut-être le plus compliqué, lorsqu'il s'agit de juger si un vêtement ou un signe est discret ou ostentatoire, et à prouver l'intention du port d'un signe, quel qu'il soit. Voilà autant de questions que nous souhaitons aborder avec dans le dialogue entre droit et sens social, donc, avec nos deux invités, à commencer par Stéphanie Hennette Vaucher. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre et membre senior de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié récemment deux ouvrages clés sur la question, « L'école et la République » sous-titré, et on y reviendra, « La nouvelle laïcité scolaire » aux éditions Lefebvre-Dalloz, mais aussi « La laïcité » dans la collection « Le mot est faible » chez Anna Moza. Et puis on a le plaisir de recevoir Ismaël Ferhat. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes également professeur à l'université Paris-Nanterre. C'est un hasard de vous réunir parce que vous êtes dans le même établissement. Vous êtes membre, vous, du Centre de recherche en éducation et formation, le CREF, et chargé de mission laïcité à l'INSPE de Versailles. Et vous avez coordonné très récemment avec Bruno Pousset le dossier système éducatif et religion, il n'y a pas le mot laïcité, et religion de la revue Éducation et Société. Et comme chaque mois, nous retrouverons une chronique historique proposée aujourd'hui par Nicolas Morales-Guzman.
Ça manque pas d'air, avec Régis Duillon.
Pour remonter de ce point de vue au 19e siècle, et on voit bien qu'à partir des années 1850, même si on n'utilise pas le terme laïcité, il n'apparaîtra que dans les années 1870, la laïcité est toujours corrélée à un régime axiologique. Il s'agit d'affirmer une perspective d'émancipation du sujet par rapport à la norme religieuse. Et on le voit, si vous voulez, on voit cette valeur se traduire à partir d'un dispositif qui comporte deux pivots. D'une part, ce qu'on appelle alors un principe de sécularisation, l'idée qu'après que la pensée a été coupée de la religion avec Descartes, il s'agit désormais de persévérer dans le projet de la Révolution française de 1789, couper la politique, qui demeure encore attachée aux religieux du fait du concordat, couper la politique de l'ordre religieux. On est là donc dans une perspective d'affirmation de l'autonomie du sujet par rapport à la loi divine. Cela n'est que le premier élément qui traduit le régime axiologique de la laïcité. Il y en a un second qui apparaît très clairement dans tous les textes de cette époque-là, c'est le principe de la liberté de conscience. Si on entend séculariser la pensée et la politique, c'est précisément pour affirmer la liberté du sujet de s'autodéterminer.
Alors, on vient d'entendre la voix de Philippe Portier, historien et sociologue qui s'intéresse aux religions. Je l'avais interviewé il y a presque 10 ans maintenant, en septembre 2015, quand je préparais un numéro de diversité sur l'école et les valeurs. Et justement, on s'interrogeait, puisqu'on était à l'époque où l'école mobilisait les valeurs de la République, comme on disait à ce moment-là, et je l'interrogeais sur la notion de valeur et de rapport entre la laïcité, c'était un vrai débat et ça le reste, comme valeur. Alors, on est 10 ans plus tard, est-ce que, voilà ce qu'il dit, cette approche-là, ces deux niveaux de définition, est-ce qu'elle vous paraît intéressante à remettre sur, comme une introduction à nos échanges sur la notion de laïcité, Ismaël Ferhat?
Alors, je laisserai ma collègue juriste être plus précise que moi en matière de normes légales et réglementaires. Ce que l'on peut souligner, c'est que nous sommes dans une période assez particulière hein, en matière de rapport entre laïcité et école, puisque vous l'avez rappelé, hein, nous sommes à peu près 10 ans après les annonces ministérielles du 22 janvier 2015 sur la mobilisation de l'école vis-à-vis des valeurs de la République. Soyez en passant une notion complexe, hein, puisque en droit, on ne définit pas les valeurs de la République. Donc, c'est une question toujours épineuse hein, à définir. Et donc, cette dialectique entre, d'une part, la neutralité de l'espace scolaire vis-à-vis des idées religieuses, philosophiques, politiques, hein, qui a été rappelée régulièrement par la législation républicaine, et l'engagement de l'école en faveur d'un certain nombre de valeurs qui sont vues comme étant républicaines, est une dialectique hein, qui s'est complexifiée donc depuis une dizaine d'années, puisque l'école, elle est tenue de défendre des valeurs. Par exemple, hein, je parle comme co-directeur d'un master d'enseignement, donc ce qu'on appelle un master MEF, la titularisation, les visites de stage des collègues stagiaires enseignants impliquent hein, notamment le fait que les personnels fassent partager les valeurs de la République, et parmi ces valeurs, d'ailleurs, est citée la laïcité. Donc, on voit bien que cette dialectique hein, entre neutralité des institutions publiques et de leurs agents et engagement, en quelque sorte, de ces institutions en faveur d'un certain nombre de valeurs que l'on va dire libérales démocratiques hein, au sens large, même si ces notions évoluent dans le temps et selon les publics qui les utilisent, donc est une dialectique qui reste très forte.
Alors, Stéphanie Hennette-Vaucher, est-ce que ce rapport-là, dans une première définition à exception de la laïcité, et ce rapport aux valeurs, valeur de la République, voilà. Est-ce que c'est pas une manière d'embrouiller finalement la définition peut-être plus simple au sens juridique du terme peut-être et qui serait bon de rappeler malgré tout?
Oui, Ismaël Ferhat a tout à fait raison. La difficulté de l'expression valeur de la République dont on connaît le succès dans le débat public contemporain, c'est précisément que ces valeurs, d'abord, on n'en a pas de liste. Et quand bien même on identifierait un certain nombre de principes, évidemment ceux de la devise républicaine, évidemment la laïcité, quelques autres encore, souvent ce sont des principes qui n'ont pas de définition extrêmement précise ou en tout cas qui sont objets à débat. Et c'est d'ailleurs bien logique puisque la République est une forme d'organisation démocratique. Il est bien normal qu'elle soit sujette à discussion, qu'elle ne puisse pas être figée dans le marbre d'une définition juridique qui prétendrait l'épuiser tout entière. Mais par rapport à l'extrait des propos de Philippe Portier que vous avez passé, je voudrais juste, j'abonde en tout point avec le commentaire qu'on a fait Ismaël Ferhat, mais peut-être on peut ajouter une chose, c'est que cette laïcité inscrite au cœur de la nouvelle politique de promotion des valeurs de la République, notamment à l'école depuis, disons, la dernière décennie, grosso modo, il me semble que, indubitablement, elle a cette dimension axiologique, mais elle a une axiologie qui varie et qui évolue. Et par rapport à ce que disait Philippe Portier, c'est-à-dire une axiologie qui se comprend comme le désir de couper la pensée et le politique du religieux d'une part et assurer la liberté de conscience de tous d'autre part, il me semble qu'il y a au moins quelque chose de nouveau aujourd'hui qui ne figurait peut-être pas au moment où Philippe Portier s'en expliquait. C'est quelque chose de l'ordre d'une défiance vis-à-vis du religieux, en tout cas dans l'espace scolaire. Je crois que l'accent, il n'est pas tellement mis aujourd'hui sur la liberté de conscience, ou a fortiori sur le libre exercice du culte. On a encore cette idée que l'école est le lieu d'éducation à la citoyenneté et que c'est la raison ou une des raisons pour lesquelles les enfants doivent pouvoir s'arracher de leurs déterminismes familiaux, religieux, culturels, etc. Mais malgré tout, je crois qu'il y a aussi une axiologie beaucoup plus offensive à l'encontre de la religion qui s'est vraiment frayé un chemin dans cette axiologie de la laïcité.
Alors on y reviendra tout à l'heure, puisque la laïcité en France s'est construite avec ou en interaction, et c'est ce que vous montrez bien dans le livre chez Anna Moza, Stéphanie Annette Vaucher, sur ce rapport à l'Église catholique et ses interactions qui a construit une laïcité à la française, si je puis le dire comme ça, et qu'aujourd'hui, le régime de laïcité qui est fort de cette expérience-là, enfin, un autre rapport avec les autres religions, et crée d'autres tensions qui devaient exister aussi avec la religion catholique, mais qui c'est pas en miroir exact, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez prolonger cet aspect-là de cette catho-laïcité telle que vous l'exposez dans l'ouvrage.
Oui, je crois que, bon, la catholaïcité, elle peut désigner ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire la manière dont effectivement, de fait, le régime français de laïcité s'est forgé à titre principal dans un discours avec, dans un dialogue, pardon, avec l'Église catholique. Néanmoins, je crois que l'idée de catholaïcité, elle désigne aussi autre chose. En fait, c'est une manière d'inviter à la réflexion critique sur la non-neutralité de principes qui apparaissent neutres, à commencer par le principe de neutralité religieuse des autorités publiques. Parce que c'est tout simplement dire que d'une certaine manière, la réalité historique conduit à ce qu'un certain nombre de choses peuvent paraître neutres du point de vue religieux, alors qu'en réalité, elles sont une forme de sécularisation ou d'acceptation de pratiques, de symboles, de choix de jours chômés qui, en réalité, ont partie liée avec une religion et historiquement avec la religion catholique.
Voilà, Ismaël Ferret, par rapport à cette construction française, et puis Nicolas reviendra sur cette histoire-là, mais voilà, ce rapport avec une religion en particulier, et puis qu'on applique finalement avec, et en particulier avec l'islam aujourd'hui, ce rapport différent, ou en tout cas avec une lecture où la neutralité est posée comme ça, comme un garde-fou contre, plus qu'avec, des religions.
Alors effectivement, il faut souligner que indéniablement, hein, les grandes lois scolaires républicaines, qui d'ailleurs précèdent la loi de 1905, hein, il faut rappeler que l'école française, enfin l'école publique française, hein, a été sécularisée avant même que l'État soit officiellement laïque. Hein, donc ce n'est pas un hasard si l'école est, si j'ose dire, à la fois un cœur et un point de cristallisation, hein, des débats et conflits en matière de laïcisation et de rapport entre institutions publiques et religieux. Donc, indéniablement, lorsque les deux lois Ferry et la loi Goblet, hein, qui sont en fait l'ensemble juridique qui vont laïciser, enfin, séculariser pour être plus précis, l'école publique française sont prises, ces lois se font, bien évidemment, très largement face à une Église catholique qui est encore très puissante, hein, qui contrôle une partie substantielle des institutions éducatives. Hein. Rappelons qu'il existe traditionnellement un très fort enseignement privé de culture catholique en France jusqu'à aujourd'hui. Et donc, indéniablement, la législation, la réglementation et les dispositifs administratifs qui sont mis en place à l'époque sont des dispositifs qui sont largement pensés, au moins de manière inconsciente, hein, face à une Église qui est centralisée, puissante et qui, par ailleurs, a prétention à contrôler l'enseignement. Il faut quand même rappeler que si la France, par exemple, n'a jusqu'à aujourd'hui pas de manuel officiel, c'est une conséquence de ce qu'on appelle la guerre des manuels qui a lieu juste après les lois Ferry. Et au fait, c'est une conséquence des très fortes résistances, hein, de l'opinion catholique à l'idée qu'il y ait des manuels républicains. À l'époque, c'était le manuel de Paul Bert, hein, qui devient par la suite responsable politique, donc qui entraîne ce genre de compromis. Alors, ce qu'il faut souligner, et c'est un point qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui, c'est que les régimes de laïcité scolaire, après cette première période d'affrontement assez tendue, hein, entre institutions catholiques et État, hein, Jean Bobéro, par exemple, dans son dernier ouvrage, parle même d'une quasi-guerre civile, hein, qui a été évitée après 1905, il montrait bien que l'Église catholique était prête à aller très très loin dans la contestation, enfin, du moins une partie de l'Église, hein, parce que c'est toujours pareil, les institutions sont souvent plurielles, pouvait aller très très loin sur la contestation de ce nouveau cadre laïque. politique. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est qu'à partir de l'après-Première Guerre mondiale, il y a eu un sujet extrêmement important qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui. C'est intéressant parce que ça interroge en quelque sorte hein, notre propre perception et notre propre inconscience sur la question de la laïcité scolaire. Il y a eu tout le sujet de la neutralité politique. Hein. Il faut quand même rappeler que la plupart des circulaires et des décrets qui ont été pris après 1918 en matière de laïcité scolaire sont des décrets arrêtés et circulaires qui se font sur la question politique.
Hein. Donc là, vous parlez souvent des circulaires de Jean Zay, sous le Front populaire.
36 et 37, hein, qui donc, d'ailleurs, sont, je crois, la première circulaire, donc là, je passe au contrôle de ma collègue, mais la première circulaire qui parle de prosélytisme, hein, et donc, effectivement, ça renvoie à un vocabulaire très contemporain par ailleurs. Or, les circulaires dans l'entre-deux-guerres, et ce n'est pas que les circulaires Jean Zay qui sont les plus connus, mais ce ne sont pas les seuls, rappellent en permanence l'importance de la neutralité politique hein, au sein des établissements scolaires à une époque où il y avait des phénomènes de politisation extrêmement forts au sein des collèges et des lycées. Et soit dit en passant, ça revient après 45, hein, il faut savoir qu'entre 68 et 73, donc à un moment de très forte mobilisation dans les lycées, on est après 1968, donc les lycées, notamment de centre-ville, sont très marqués par les mobilisations lycéennes. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle très régulièrement la nécessité de neutralité des locaux scolaires publics. Hein, donc on voit que cette question qui a beaucoup taraudé les pouvoirs publics a en quelque sorte longtemps coexisté avec la question catholique. Il convient de souligner que, pour finir, hein, c'est la réorientation sur la question des comportements d'une partie des élèves de culture musulmane. Hein, encore une fois, on ne peut pas généraliser le propos. Elle se fait très tardivement à partir des années 80, mais très souvent en référence à une législation qu'on va réexhumer à ce moment-là hein, en disant « mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans des situations qui apparaissent nouvelles ?»
Tout à fait. Alors, je voulais juste avant la chronique de Nicolas revenir sur une expression que vous avez utilisée de régime de laïcité, étant entendu que la France n'est pas non plus uniforme et que ces règles, ces éléments-là ne s'appliquent pas tout à fait de la même manière selon les endroits où on est. On peut penser à l'Alsace, la Moselle, on peut penser à la Guyane, on peut penser à Mayotte, ou encore, comme vous l'avez fait finalement, à l'enseignement privé, qui n'est pas exactement sous le même régime de laïcité que l'école publique. Alors Stéphanie Nedvaucher, vous évoquez beaucoup ces questions-là dans vos ouvrages de régime, au pluriel, hein, de laïcité, en fonction à la fois de ces espaces géographiques et puis de ces espaces entre le public et le privé.
Oui, je crois que c'est effectivement important d'attirer l'attention sur le fait que ce principe de laïcité, bien sûr, c'est un principe constitutionnel et figure dans la Constitution au singulier. Mais en réalité, précisément, je crois, une des choses que permet l'analyse juridique, c'est de montrer en fait qu'il y a une pluralité de régimes de laïcité. Alors, pluralité géographique, vous l'avez indiqué, hein, il y a une grande variété des régimes de laïcité sur le territoire et c'est parfaitement conforme à la Constitution. Donc, la laïcité au singulier comme principe constitutionnel comprend cette pluralité de régimes juridiques. Ça a été vrai dans l'histoire, hein. Il y a des travaux très intéressants sur l'exception impériale à la laïcité, donc ça c'est également un élément important. Et puis c'est vrai aussi dans les différents espaces qui sont couverts par le principe de laïcité. Alors moi effectivement je me suis beaucoup intéressée ces derniers temps à la question des écoles privées et c'est vrai que l'existence d'établissements privés d'enseignement dont la plupart sont associés au service public de l'éducation nationale.
Sous contrat, donc.
Et quelque chose de très intéressant, parce qu'en réalité, ce que j'essaye de proposer dans l'ouvrage que j'ai consacré à cette question, c'est qu'en réalité, on peut lire le régime juridique de ces établissements privés comme une forme d'accommodement consenti à la religion, historiquement à la religion catholique, puisqu'en réalité, il s'agit de permettre à ces établissements privés d'exister, d'affirmer un caractère propre, y compris de nature confessionnelle, et néanmoins de leur apporter un financement public qui est loin d'être marginal, hein, puisque à la date d'aujourd'hui, on estime qu'il y a un peu plus de 12 milliards d'argent public chaque année qui va dans le financement des établissements privés sous contrat. Et puis par ailleurs, en réalité, le principe constitutionnel de laïcité n'a pas du tout le même sens, n'a pas du tout la même portée dans ces établissements que dans le reste de l'espace social. En particulier, évidemment, puisque ces établissements peuvent affirmer un caractère propre confessionnel, eh bien, il n'y a pas de neutralité religieuse des bâtiments. Il y a une très grande hybridité et donc complexité du statut des enseignants ou de l'ensemble des personnels qui y travaillent. Mais ils sont, selon toute vraisemblance, une exception à la règle selon laquelle les agents publics et même les personnes de droit privé qui travaillent dans un service public sont soumises au principe de laïcité et de neutralité. Évidemment, ce n'est pas le cas. En réalité, la seule vraie contrainte, c'est la contrainte de respecter les programmes officiels, mais ils peuvent y ajouter précisément des enseignements à caractère religieux. Donc effectivement, je crois que c'est un bon exemple de cette pluralité, en réalité, des sens accordés au principe de laïcité.
Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on fasse un. On a déjà évoqué l'histoire à plusieurs moments. En tout cas, vous l'avez fait tous les deux. Alors, je propose qu'on écoute Nicolas Morales-Guzman par rapport à sa chronique sur la laïcité. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour, Régis. Le langage humain a la particularité de s'adapter au moment et aux réalités historiques de chaque civilisation. C'est pourquoi les mots et les concepts qu'ils mobilisent sont assujettis à des changements au fil du temps. Le concept de laïcité qui nous occupe aujourd'hui n'échappe pas à cette caractéristique. Pour Edgar Morin, par exemple, la laïcité devrait être, j'ouvre la citation, « la constitution d'un espace public de pluralisme qui fait l'originalité de la culture européenne moderne telle qu'elle s'est développée depuis la Renaissance ». Fin de citation. Cependant, parler de laïcité pendant la Renaissance est un anachronisme, car le mot et les concepts juridiques en lui-même ne datent que de la fin du XIXe siècle. En effet, d'après Jacqueline Lalouette, le mot « laïcité » fait sa première apparition le 9 novembre 1871 dans un article du journal « La Patrie » concernant une décision du Conseil général de la Seine. L'une des premières définitions du concept, avec une implication pédagogique, est proposée dans le dictionnaire de Ferdinand de Buisson. Le mot « laïcité » y est défini comme un néologisme dérivé de l'adjectif « laïque » dont Buisson trace l'étymologie. Cet adjectif provient du grec ancien « laïkos », dérivé du nom « laos » qui signifie « peuple » ou « nation ». Ainsi, le sens primitif de « laïque » est celui de « populaire » ou « national ». Mais le mot a été utilisé dans les premières communautés chrétiennes, surtout pour désigner les gens qui ne faisaient pas partie du clergé. Buisson avance donc que l'antonyme le plus direct de laïque est « clérical ». Les dictionnaires des siècles précédents, y compris le Godefroy du Moyen-Âge, mettent l'accent aussi sur cette distinction entre le clergé et les laïcs. Le dictionnaire de l'Académie de 1835 définit également les laïcs comme les personnes n'appartenant à aucun ordre religieux. Habit laïque et habit clérical sont des exemples de l'utilisation de ces mots. On voit bien donc que l'adjectif laïque s'est construit en distinction à l'ordre ecclésiastique. Le clergé, quant à lui, a joué historiquement un rôle important en éducation dans plusieurs pays européens et leurs colonies. Par exemple, dans le dictionnaire Huguet, référence du français de la Renaissance, on apprend que cléricature est synonyme d'instruction et de savoir. Dans les colonies espagnoles, l'Inquisition a longtemps utilisé le prétexte de l'alphabétisation pour évangéliser une grande partie des communautés autochtones.
Mais la laïcité va progressivement s'imposer au cours du XIXe siècle, à la fois dans le projet républicain et comme fondement de l'école publique.
Tout à fait, Régis. En effet, la ferveur républicaine déclenchée par la Révolution française a remis en question le rapport intrinsèque de l'Église, l'éducation et l'État. Ainsi, inspiré par les valeurs républicaines, le concept de laïcité naît dans la conjoncture instable du début de la Troisième République. Pour Germain Sicard, c'est lors de la Commune de Paris qu'une grande campagne de laïcisation fut lancée partout en France au détriment de l'enseignement congrégationaliste, avant que ce dernier ne soit définitivement interdit avec la loi Combes de 1904. Wenaël Calvez recense plus de 16 lois concernant la laïcité dans l'éducation entre 1879 et 1904. La laïcité est donc avant tout un concept juridique. C'est l'obligation de l'État d'être laïque, c'est-à-dire, dans le mot de Buisson, qu'il doit demeurer neutre entre tous les cultes. Dans les discours médiatiques des dernières années, laïcité vient très souvent accompagnée de neutralité. Et les agents de l'État défendent dans le discours médiatique cette neutralité qu'ils exigent aux citoyens sans même préciser ce que cela implique. Par exemple, Gabriel Attal, à plusieurs reprises, se montre fier de rappeler le principe de laïcité défendu par la loi de 2004. Cette loi garantirait à elle seule la laïcité dans le pays. Certes, cette loi est la première à mentionner explicitement le principe de laïcité dans les écoles, mais en vérité, l'école française est laïque depuis la loi Ferry de 1882. Le discours de certains responsables politiques veut faire croire que la seule loi de 2004 est garante de la laïcité en France, alors que c'est au cours du tournant laïque de la fin du XIXe siècle que le régime laïque a été véritablement installé en France. Pierre Kahn souligne que la pierre d'achoppement du modèle français de laïcité réside dans la tension entre l'objectif et les moyens. En effet, l'objectif de la laïcité est de garantir la liberté des consciences et le libre exercice des cultes. Et le moyen d'y parvenir, c'est la séparation des églises et de l'État. Mais cette séparation peut s'exprimer de plusieurs façons. C'est pourquoi Kahn, de même que d'autres chercheurs, affirme que la loi de 2004 constitue en vérité un tournant majeur du modèle laïque français, en ce que cette loi fait de la neutralité non un moyen ni une responsabilité de l'État, mais un devoir des citoyens. Autrement dit, avec cette loi, ce n'est plus le devoir de l'État d'être laïque dans les établissements scolaires, mais c'est aux citoyens de garantir la neutralité afin de préserver la soi-disant laïcité. Ce tournant devient un paradoxe dans la mesure où il est difficile de conjurer en même temps l'obligation de neutralité des citoyens et les libres exercices des cultes que la laïcité même est censée défendre. C'est pourquoi certains spécialistes considèrent qu'un débat sur le type de laïcité devrait avoir lieu en France. Il ne s'agirait pas de remettre en question le besoin de laïcité. Il s'agirait plutôt de réfléchir au modèle de laïcité que l'on veut et surtout à la façon dont la neutralité doit être comprise et affichée. Car le modèle de laïcité, tel qu'il est présenté et défendu dans le discours médiatique, et pire encore par certains agents de l'État, est loin d'assurer la liberté des cultes et instaure de facto une discrimination indirecte, notamment contre les femmes musulmanes de France.
Merci Nicolas. Alors, cette chronique appelle sans doute un certain nombre de réactions positives ou surprises. Voilà, et quelles sont, Stéphanie Hennette-Voucher, je vous ai vu prendre des notes. Voilà, alors on balaye large parce qu'on part du mot, de l'étymologie, et puis après, voilà, on progresse jusqu'à des débats très récents. La question de la neutralité est venue aussi, et je pense qu'on va en parler longuement tout à l'heure, mais quels sont les éléments de réaction par rapport à ce que Nicolas vient de nous raconter finalement?
Oui, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Peut-être juste pour rebondir de manière particulière sur la loi de 2004. Effectivement, je fais partie, quant à moi, de celles et ceux qui lisent la loi de 2004 comme un authentique tournant, pour les raisons qui ont été dites, mais qu'on peut formuler aussi dans d'autres termes, là encore, depuis la perspective juridique, puisque en réalité, la loi de 2004, c'est le premier texte juridique qui déduit du principe juridique de laïcité des obligations de discrétion, sinon de neutralité religieuse, qui pèsent sur les personnes privées, les individus, que sont les élèves de l'enseignement public. Jusque-là, il n'y avait pas eu une telle signification du principe de laïcité. Les obligations de neutralité générées par la laïcité ne s'entendaient jusque-là que comme des obligations de neutralité pesant sur les autorités publiques. Donc il y a vraiment une bascule ici, puisqu'on génère des obligations de neutralité qui pèsent sur les personnes privées. Alors c'est très important pour l'école, et je vais y revenir dans un instant, mais c'est très important aussi parce que ça a contribué à enclencher un mouvement que l'on constate aujourd'hui dans le débat public, qui est celui de la multiplication des raisonnements, des revendications d'un certain nombre d'acteurs politiques et sociaux qui souhaitent semblablement rattacher au principe de laïcité des obligations de neutralité religieuse qui pèseraient sur les personnes privées, dans l'espace public, au travail, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un point de bascule.
Et qu'on retrouve donc dans d'autres textes qui vont suivre derrière. Moi, j'avais noté la loi El Khomri, enfin la loi Exactement. Travail de 2016 portée par la ministre El Khomri, la loi confortant les respects des principes de la République, la loi de 2010 sur le fait de ne pas pouvoir cacher son visage dans l'espace public. Bref, voilà, il y a toute une série de lois, même une espèce de surenchère en termes de lois, et j'en oublie, puisqu'on pourrait parler aussi de la circulaire de Gabriel Attal sur les abayas en septembre dernier. On densifie juridiquement les choses, toujours dans la même direction, finalement.
Voilà, c'est ça. Et je pense que vraiment une manière parlante de le retenir, c'est cette idée que les obligations de neutralité pèsent sur les personnes privées. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, et comme vous le dites très justement avec tous ces exemples, qui en réalité, c'est pas une brèche qui s'est ouverte seulement à l'école avec la loi de 2004, comme c'est vraiment le mécanisme juridique qui a été modifié, il est applicable à d'autres secteurs. Et l'autre point sur lequel je voulais réagir par rapport à la chronique qu'on a entendue, c'est sur effectivement un des gros enjeux, un des gros défis que nous révèle 20 ans désormais d'application de la loi du 15 mars 2004, c'est bien sûr le défi de l'égalité. C'est-à-dire, on a ce texte qui interdit le port par les élèves de l'enseignement public de signes ou de tenues par lesquels ils manifesteraient ostensiblement leur appartenance religieuse. Mais on a une multiplicité d'indices qui nous laissent penser que ce régime, ce nouveau régime de laïcité scolaire, il pèse de manière inégale sur les élèves et que, en particulier, bien sûr, il y a l'exception juive ou sikh de temps en temps, mais en particulier, ce sont les jeunes filles musulmanes qui essuient les rigueurs du texte. Et donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est très problématique pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la question de la laïcité, puisque pour reboucler avec ce qu'on disait au tout début de cet entretien, on parle de valeurs républicaines, de valeurs de la République. Bon, bah, évidemment, l'égalité compte parmi les valeurs tout à fait essentielle de la République. Et donc, c'est évidemment un point de tension très problématique qui se noue ici entre laïcité et égalité.
Alors Ismaël Ferhat, de la même manière par rapport à cette chronique, quels sont les points que vous retenez et qui vous semblent particulièrement intéressants de développer ?
Tout d'abord, merci pour la chronique, hein, très riche. Et merci pour les précisions donc, de ma collègue que je partage, bien sûr. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que, un, nous sommes dans un pays donc, spécifique, hein. La France partage avec d'autres pays latins et catholiques hein, des rapports complexes entre religieux et scolaire. Typiquement, quand vous allez dans des pays de culture protestante, les rapports entre école et religieux sont très différents. Et jusqu'à aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on a aussi, j'allais dire, l'héritage anthropologique, culturel, hein, de décennies, voire de siècles de conflits entre institutions religieuses catholiques et institutions scolaires, hein, ce qui, bien sûr, structure encore très largement les catégories juridiques, sémantiques, même cognitives. De perception du sujet. Le second point fondamental, c'est que indéniablement, il y a eu un changement, non pas forcément du cadre juridique, même s'il y a eu pas mal de textes hein, depuis maintenant les années 2000, j'allais dire de gestion du fait religieux par les pouvoirs publics. Ça, c'est fondamental. En fait, il y a un paradoxe qui est très peu remarqué, c'est très intéressant. J'en discute parfois avec les étudiants qui eux-mêmes ne sont pas forcément conscients de ceci. C'est que on est rentré depuis une soixantaine d'années dans la société française dans un déclin continu de l'expression et de l'identité religieuse. C'est-à-dire que en gros, depuis les années 60, hein, l'historien Guillaume Cuchet donne la date de 65 hein, pour comme rupture en matière de pratiques religieuses catholiques. Hein, la population française, notamment en métropole. Alors, l'outre-mer, c'est un peu différent. D'ailleurs, je trouve qu'on ne parle pas assez d'outre-mer en matière de laïcité, mais c'est un autre sujet, même si on pourrait en parler par ailleurs. Mais on va dire que la société française métropolitaine est une société qui est de moins en moins religieuse.
En termes de pratique.
En termes de pratique et même d'identité. Hein. Il faut quand même rappeler que depuis les années 2010, hein, on a pour le coup l'avantage d'avoir des sondages très réguliers sur ce que les Français disent en matière de rapport aux croyances ou à Dieu. Hein. Donc, est-ce que vous croyez en Dieu ? Depuis les années 2010, hein, une majorité de gens disent « je ne crois pas en Dieu ». Donc, on est dans une société qui, globalement, est non seulement de moins en moins religieuse, de moins en moins pratiquante et même qui se réfère de moins en moins à une référence divine. Le second point fondamental, c'est que la loi de 2004, elle s'inscrit dans une question qui est une question très complexe, puisqu'elle renvoie à la fois au droit et encore une fois à des dimensions très intimes, hein, très personnelles, j'allais dire, du rapport aux croyances. Ce qu'est, c'est ce que notre collègue, alors Nanterrois, je suis désolé de faire de la préférence établissement, mais notre collègue Nanterrois, Étienne Oléon, qui est un sociologue et politiste, hein, appelait. Il avait travaillé sur la question des phénomènes sectaires, et d'ailleurs, c'est un élément non négligeable de la gestion du fait religieux par les pouvoirs publics. Il parlait de la question du, entre guillemets, religieusement inacceptable. Qu'est-ce qui, pour les pouvoirs publics, est acceptable ou inacceptable en matière d'expression du fait religieux? Et typiquement, la loi de 2004 dit il y a des expressions du fait religieux, en l'occurrence vestimentaire ou de tenue, qui seraient inacceptables et leur simple présence perturberait l'ordre scolaire. Et donc, ça renvoie à la vieille idée du droit républicain et libéral, hein, du trouble à l'ordre public, hein, qui est la limite ultime des libertés individuelles. Et pour le coup, quand on croise les deux, on se rend compte que ce n'est pas forcément l'augmentation du nombre de problèmes en matière de fait religieux qui existe. Hein. Il ne s'agit pas de nier le fait qu'il peut y avoir des difficultés parfois extrêmement fortes. Il hein. Faut quand même rappeler qu'on a eu deux collègues assassinés par des terroristes islamistes sur des questions scolaires. Donc, on est quand même dans une situation où il peut exister un extrémisme religieux réel, hein, notamment de, mais pas que d'origine islamique. Mais on va dire que globalement, les frictions entre religieux et scolaires qui ont été fortes, hein, historiquement, il faut quand même rappeler qu'il y a eu des contestations extrêmement importantes de l'école publique républicaine, ont eu tendance sur le long terme à baisser, mais la sensibilité du corps social qui est de moins en moins religieux à l'expression du fait religieux a aussi changé. Ce qui fait que, par exemple, ça c'est très frappant, quand j'ai pu faire des entretiens avec des gens qui étaient en poste dans les années 80, des foulards, il y en avait déjà dans les écoles, en réalité. Beaucoup de chefs d'établissement, d'enseignants des années 80 me disaient « Mais moi, j'ai eu des cas de foulards, des cas de signes religieux très visibles. Hein. » Et très souvent, ça se réglait par la discussion localement. Parfois, l'établissement ne disait rien. Hein. Enfin, c'était laissé, puisque légalement, il n'y avait pas de texte réglementaire ou légal qui l'empêchait. Et 89 est un tournant, parce que pour le coup, on a eu la conjonction de phénomènes qui était inédit à l'époque. Et là, encore une fois, quand on fait un pas de côté en essayant de prendre les choses de manière objective, c'est un tournant qui est tout à fait intéressant. Premier élément, c'est la première fois qu'on va parler de laïcité dans un contexte de quartier populaire, ce qui est un vrai tournant, parce que jusque-là, quand il y avait des difficultés en matière de laïcité scolaire, c'était plutôt dans l'établissement, on va dire, plutôt bourgeois, conservateur, hein, ou très politisé de centre-ville. L'affaire de Creil se fait dans un quartier très dégradé d'une commune déjà très pauvre, hein, qui est la commune de Creil. Et effectivement, il y a une frontière qui est très poreuse, c'est-à-dire tous les rapports suivant le souligneront, entre, j'allais dire, tension sur le fait religieux et contestation de l'ordre scolaire, de type violence scolaire, de type comportement d'indiscipline. Hein. Et d'ailleurs, très souvent, la frontière entre les deux n'est pas simple.
Alors, je voudrais revenir aussi avec ce qu'on est. On est passé sur la neutralité et on a expliqué comment aujourd'hui cette question pèse finalement dans le débat ou dans l'approche qu'on a de la laïcité aujourd'hui. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est au détriment. Stéphanie Hennette-Vaucher, vous le soulignez très longuement, hein, au détriment d'autres principes constitutifs de la laïcité, que sont la séparation et la garantie de la liberté de culte, et qui sont un peu écrasés, je crois que c'est le verbe que vous utilisez, par l'emprise de la neutralité dans l'espace public.
Oui, c'est vrai, moi, c'est une des choses qui me frappe dans les évolutions du débat public contemporain sur les questions de laïcité, c'est la manière dont la laïcité tend à être rabattue sur la notion de neutralité. Et donc, il y a une sorte d'hypertrophie de la neutralité, c'est-à-dire que, d'abord, comme on le disait tout à l'heure, c'est plus seulement la neutralité des autorités publiques, mais c'est potentiellement la neutralité de tout un chacun dans divers espaces sociaux, mais aussi hypertrophie de la neutralité au sens où, en fait, on a le sentiment, parfois, que lorsqu'on dit neutralité, on dit le tout de la laïcité. Et ça me semble un peu problématique parce qu'il y a évidemment d'autres dimensions qui, à mon avis, sont tout à fait aussi importante du principe de laïcité, à commencer par, d'une part, la notion de séparation des églises et de l'État, qui a toute une série d'implications, hein, à la fois sur le financement ou le non-financement public des cultes, sur l'autonomie organisationnelle qui est reconnue aux cultes, qui a été singulièrement rabotée, par exemple, sur la période récente par la loi dite séparatisme, confortant les principes de la République du 24 août 2021. Et puis, il y a aussi, évidemment, à côté du principe de séparation, le principe de garantie. L'article 1er de la loi de 1905 nous dit bien que la République assure la liberté de conscience et qu'elle garantit le libre exercice du culte. Et je crois que c'est quelque chose qu'il est important de rappeler, parce que trop souvent, me semble-t-il, dans le débat public, on se réfère au principe de la laïcité comme si c'était un principe qui permet de fonder des restrictions à la liberté de culte et à la liberté de religion. Or, ça, c'est vraiment une inversion, en réalité, de la logique de 1905, où, encore une fois, à l'article 1er, hein, c'est pas anodin, on n'écrit pas des textes juridiques dans un ordre indifférent, à l'article 1er, la République reçoit obligation de garantir le libre exercice du culte. Donc, c'est quand même très différent de penser la laïcité comme un des éléments qui permet la garantie du libre exercice du culte à des itérations plus contemporaines du principe où on pense la laïcité comme, en fait, l'antonyme, bien souvent, de la liberté religieuse.
Merci. Alors, je vais rendre le micro à Nicolas pour qu'il y a une question.
Oui, tout à fait. Alors, Stéphanie Hennette-Vaucher, dans vos livres, vous parlez, quand vous mentionnez le défi de la laïcité, vous le mentionnez aussi comme un défi sémiotique. Je voudrais revenir sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, puisque très souvent, les vêtements pour les femmes musulmanes sont vus peut-être pour certaines personnes comme un signe de soumission de la femme envers l'homme. Donc on est un peu, en quelque sorte, dans un paradoxe, puisque il y a des femmes qui portent le voile de plein gré, il y a d'autres que peut-être sous l'injonction de la famille ou de la culture, ou je ne sais pas, peut-être le portent de manière obligée, mais il y a des femmes qui le portent librement. Donc comment concilier ces deux, enfin ce paradoxe sur la valeur de l'égalité et du libre principe de culte?
Ben merci beaucoup. C'est une question évidemment à la fois très importante et très difficile. Ce que j'essaye de désigner en parlant d'un défi sémiotique dans la manière dont le régime juridique de laïcité évolue sur la période contemporaine, c'est tout simplement pour essayer de mettre la lumière sur quelque chose comme un problème de méthode, me semble-t-il. Il me semble que lorsque la loi investit les autorités publiques de la responsabilité et de la compétence de faire la distinction entre un signe religieux et un signe non religieux, ou entre un signe par lequel un élève, par exemple, manifeste ostensiblement ses croyances religieuses et un autre, eh bien, en réalité, il y a véritablement un problème de méthode parce qu'il y a un risque de fuite en avant. Si on se replace en mars 2004, mentalement, à l'époque, comme ça figure d'ailleurs dans la circulaire d'application du texte, on dit, bon, bah, en réalité, les signes qu'on va interdire, c'est la kippa, le voile, la croix de grande taille. Et puis, en réalité, les autorités scolaires ont très vite été confrontées à des élèves qui portaient des signes qui n'étaient ni des kippas, ni des voiles, ni des croix de grande taille, et dont elles avaient le sentiment que ces élèves essayaient de contourner la loi. Et c'est la raison pour laquelle les autorités scolaires, suivies par les juges, se sont mises à interdire, sur le fondement de la loi de 2004, des bandanas, des jupes trop longues, des bonnets portés d'une certaine manière, etc. Et je pense qu'il y a là, malgré tout, une difficulté de méthode. Je ne prétends pas nécessairement avoir la solution, mais il y a une difficulté de méthode qui se revoit encore au moment de la circulaire de l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, interdisant l'abaya. On a ici une autorité publique qui identifie un signe sur lequel il y a par ailleurs débat sur le point de savoir si c'est un signe religieux, culturel, un vêtement religieux, culturel, etc., et qui dit qu'il est interdit sous l'empire de la loi de 2004, mais on n'en a pas véritablement de définition, de sorte que dans les semaines qui ont suivi, il y a eu une cacophonie terrible avec toutes sortes de témoignages de jeunes filles qui disaient « mais moi, je portais un kimono avec un jean et j'ai été sanctionnée, etc. etc. » La difficulté de tout ça, c'est pas seulement, il y a évidemment la difficulté sémiotique qui est celle sur laquelle j'essaye d'attirer l'attention, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est très difficile de dire qu'un signe a une signification. C'est évidemment très difficile. La signification d'un signe, elle est toujours le résultat d'une sorte de coproduction entre le signe dans son contexte, celui qui le porte et celui qui le regarde. Donc c'est très très difficile de procéder de cette manière. Mais en plus, au-delà du défi sémiotique, ben, évidemment, le gros défi, c'est le défi, là encore, de l'égalité. Parce que quand on donne ce pouvoir aux autorités scolaires, qui est de dire, bon ben voilà, vous devez interdire l'accès de l'établissement aux élèves qui portent des signes, bandanas, tissus, fichus, que sais-je, dès lors que, ce faisant, ce sont des élèves qui manifestent ostensiblement leurs croyances religieuses. La difficulté, c'est qu'en réalité, on ne se donne pas les moyens ici de contrôler les interprétations culturalistes et à vrai dire discriminatoires qui peuvent être le fait de ces mêmes autorités scolaires. Et donc, dans tout un discours ministériel qui est de dire « nous venons au soutien des autorités scolaires, nous venons les aider », etc., il me semble, enfin moi j'aimerais pas être principale et devoir appliquer ce nouveau régime de laïcité scolaire. Il ne me semble pas qu'il en sorte simplifié.
Alors, je voudrais conclure cette émission en rebondissant sur ce que disait Ismaël Ferhat par rapport aux pratiques religieuses, enfin, de se mettre du côté des élèves, finalement, aussi, et de leur point de vue, finalement, aussi vis-à-vis des religions, pas forcément comme croyants ou praticiens, mais de se dire que la religion fait partie de la société et de la vie, et que finalement, les autorités sont plutôt dans une forme d'intolérance ou de rejet du religieux dans l'espace public ou dans l'espace scolaire, alors que eux développent un discours, me semble-t-il, mais peut-être que je me trompe et je m'égare, mais plutôt de tolérance et d'ouverture sur qui s'habille, qui pratique. Voilà, il n'y a pas de difficulté à montrer ou ne pas être pratiquant de telle ou telle religion, ou d'être non pratiquant, et qu'il y ait une sorte de tolérance totale vis-à-vis de ces questions-là, ce qui peut mettre en fait un mur de malentendus avait entre les jeunes et les adultes, en tout cas peut-être d'une jeunesse d'aujourd'hui, qui n'était peut-être pas celle de 10 ans, il y a 10 ans, mais comment ce dialogue-là avec cette jeunesse d'aujourd'hui, de 2024, peut se comprendre au regard des postures que choisit de prendre l'institution ou l'État?
Premier élément, il faut rappeler que les jeunes sont, à l'image du reste de la société, très peu religieux. En moyenne, hein, on a une pratique, une identité religieuse qui est très faible chez les jeunes. Donc, quand j'ai dit jeunes, hein, on va dire les jeunes en âge d'être scolarisés. Comme ça, on reste hein, sur un public, on va dire, relevant de l'enseignement scolaire. Donc, c'est un public qui est très peu religieux. Néanmoins, il y a des spécificités. On sait que, par exemple, hein, c'est ce que montrent les enquêtes trajectoires et enquêtes des origines, hein, qui sont des enquêtes à la fois INSEE et INED, dont deux vagues ont été faites durant les années 2010-2020. On sait que les jeunes issus de l'immigration, donc ayant un et surtout deux parents immigrés, et les jeunes de minorités ethno-religieuses, typiquement musulmanes et catholiques, ont un taux de transmission religieuse plus important. Ça veut dire que le modèle de transmission familiale du religieux, pour reprendre une expression de Daniel Hervé-Léger, qui est une sociologue du fait religieux, qui a explosé pour les familles catholiques, continue à exister pour les familles musulmanes et juives, où on transmet beaucoup plus à ses enfants, hein, donc l'identité et la pratique religieuse. Donc, on va dire qu'il y a des différences hein, selon le fait qu'on soit jeune du groupe majoritaire, c'est-à-dire non migratoire et non issu de minorités religieuses, et des jeunes de minorités à la fois migratoires, ethnique et ethno-religieuse. Le deuxième point fondamental, c'est le fait que, indéniablement, tous les travaux et tous les sondages et toutes les études convergent sur un point, c'est que les publics jeunes, lorsqu'on les interroge et qu'on peut comparer les données à des publics autres que les jeunes, en par la moyenne de la population ou d'autres catégories, ces publics jeunes sont en règle générale plus hostiles à la loi 2004. Ça, c'est très très net. Hein, tous les travaux depuis les années 2000 en sciences sociales hein, et dans les sondages confirment que les jeunes sont tendanciellement plus hostiles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritairement hostiles. Hein, on va dire qu'il y a une plus courte majorité face à cette loi, alors que lorsqu'on prend la population en règle générale, et plus encore les enseignants qui sont plus en faveur encore de la loi 2004, hein, donc c'est un élément important, on voit qu'il y a un petit décalage, enfin qu'il y a un décalage significatif, hein, les jeunes sont moins favorables en moyenne à cette loi que le reste de la population. Troisième point fondamental, et c'est toujours pour ceci que j'encourage le pas de côté méthodologique, le rapport à la loi 2004 et plus globalement à la laïcité scolaire, qu'elle soit vécue ou qu'elle soit représentée ou ressentie par les élèves, elle est très dépendante, et ça, les travaux de sciences sociales permettent aussi d'établir, du rapport à la scolarité. Je m'explique. Y compris dans un même profil, on va dire, religieux, migratoire, ethnique, entre deux élèves, ce qui va être déterminant très souvent dans le rapport à la loi 2004, par exemple, ça va être le rapport à l'école. Je m'explique. Très souvent, la loi 2004, elle est ressentie beaucoup plus durement dans les travaux qui existent, par les jeunes de la voie professionnelle, par les jeunes des quartiers populaires et par les jeunes qui sont en échec scolaire. Donc, on voit très très bien en fait que l'enjeu, ce n'est pas forcément la loi 2004 pour ces jeunes, c'est plutôt le fait qu'elle se rajoute pour certains à une expérience scolaire qui est une expérience, j'allais dire, d'échec, de difficulté, de souffrance. Et très souvent, on va identifier la loi 2004 comme étant le symbole d'une école qui est injuste avec les minorités.
Stéphanie Hennette Vaucher, sur ce point-là.
Je trouve très intéressant tout ce qui vient d'être dit, mais pour rebondir sur cette question qui est vraiment celle, en fait, du point de vue de l'élève, moi, je voudrais juste peut-être rappeler que, d'un point de vue juridique, cette fameuse affaire de Creil, donc en septembre 1989, qui a ouvert d'une certaine manière ce débat public incessant et qui a mené à la loi du 15 mars 2004, en réalité, obscurcit une autre chose qui s'est passée en 1989 et qui est important aussi du point de vue du droit scolaire, qui est la loi Jospin d'orientation sur les droits des élèves et qui précisément marque une rupture très importante dans l'histoire du droit scolaire, puisque avec la loi d'orientation sur l'école de 1989, l'élève devient vraiment un titulaire de droits fondamentaux, notamment sa liberté d'expression à l'intérieur de l'école. Et cette loi de 89, elle a d'ailleurs, au-delà du fait qu'elle a proclamé que l'élève, ben c'est pas parce qu'il est élève qu'il perd sa liberté d'expression, etc., elle a mené à des évolutions très importantes hein, du droit scolaire, puisque dans les années qui ont suivi, notamment, on a considéré, enfin, le juge a accru son pouvoir sur les décisions internes des écoles, précisément en disant que, ben voilà, même à l'école, on était un sujet de droit, c'était pas une institution totale ou totalement impénétrable, et que donc, voilà, ce qu'on appelait autrefois les mesures d'ordre intérieur qui n'étaient pas contrôlées par le juge, deviennent justiciables. Donc, il y a eu vraiment quelque chose d'important qui s'est passé ici. Et je pense que c'est aussi un élément important à avoir à l'esprit, parce que je crois que je parlais tout à l'heure des tensions entre cette nouvelle laïcité scolaire et les questions d'égalité. Mais je crois qu'il y a aussi une tension entre cette nouvelle laïcité scolaire et les questions de liberté, en fait. C'est-à-dire véritablement définir ou hésiter à le faire, l'espace scolaire comme étant un espace où peuvent se déployer les libertés fondamentales de l'élève.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Stéphanie Hennette-Vaucher et Ismaël Ferhat, pour cet échange passionnant. Il y a plein de questions qu'on n'a pas abordées et je pense qu'il faudra qu'on y revienne, puisque je pensais pouvoir aborder, par exemple, la question de l'enseignement de ces questions-là et comment on fait vivre aussi dans l'enceinte de l'école. Mais là, c'est presque une émission en soi qu'il faudrait organiser, donc on y reviendra, je le promets. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée en collaboration avec Nicolas Morales-Guzman, étudiant à l'UNS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Et rendez-vous en décembre pour la prochaine émission. Vous pouvez retrouver ce podcast, comme tous ceux de Cadécole, sur le site de l'IFE de l'UNS de Lyon, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast disponibles.